بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفعني الإسلام. Nous remercions Allah Rabbul Izza qui nous donne la possibilité donc de nous asseoir un instant pour essayer d'étudier quelques versets du Coran et quelques hadiths, paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait commencé la semaine dernière un chapitre qui s'intitule, un chapitre très long, un titre très long et qui a tout son sens, un titre qui met en avant des actions du quotidien qui doivent nous mener vers le istiqam. Et juste avant ce chapitre, on avait essayé de comprendre c'est quoi l'istiqam. Al-istiqama, c'est vraiment le summum pour un croyant. C'est d'adorer Allah Azza wa Jal ala yaqinin wa basira, avec certitude, avec clairvoyance, avec le cœur convaincu, avec une telle conviction, un tel iman billah, qui fait que la personne ne se détournera, inshallah, jamais du droit chemin, et au contraire, la personne augmente en guidée et en fermeté jusqu'à sa mort. Maintenant, quelles sont les actions qui nous permettent d'arriver vers cette fermeté de la foi. Donc ça c'est le 9e chapitre de Riyad al-Salihin et qui vient juste après donc, vous voyez le tartib est bien fait, qui vient juste après l'istiqama, bab at-tafkir fi 'azim makhluqat Allah ta'ala. Le fait de méditer sur la puissance d'Allah à travers sa création. Wa fana'i dunya, et le fait que ce monde est éphémère, wa ahwalil akhirati wa sa'iri umuriha, et sur l'au-delà, les situations de l'au-delà, wa taqsirin nafsi wa tahdhibiha, et sur la maîtrise de ses passions et de son nafs, wa hamliha ala al-istiqama, et comment est-ce que cela peut nous amener vers la fermeté. Le titre même ça fait presque un chapitre. L'objectif c'est de voir quelles sont les actions qui nous permettent de déclencher cette réaction spirituelle pour nous amener vers l'istiqama. La semaine dernière, on avait eu le verset qul innama a'idhukum biwahida, avec la conclusion thumma tatafakkaru, méditer après avoir accompli chaque bonne action et voir comment cette bonne action nous a approchés d'Allah Azza wa Jal. On avait cité deux tafsirs d'Ibn Uthaymin rahimahullah, tafsir daqiq, d'une perfection, et la particularité des tafsirs des contemporains, des savants de ce siècle, ce sont des tafsirs qui nous interpellent, on pourrait dire un peu plus, parce que ça nous met en relation avec des réalités de ce monde, avec la difficulté de la pratique, avec les fitnas qui nous entourent. Et les deux versets que Cheikh avait mis en avant, c'est « Wasta'inu bis sabri wa salat » et « Wa aqimis salat inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ». En résumé, cette prière, normalement, on doit trouver le réconfort de la salat. Comme le prophète alayhi salat wa salam, quand il y avait une difficulté, un problème, c'était deux unités de prière pour trouver l'aide d'Allah. Et c'est ce que nous déclarons, Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in, on cherche le refuge auprès d'Allah. Et l'autre verset, le verset qui rappelle que la salat éloigne du turpitude et du blâmable, logiquement, salat après salat doit nous renforcer spirituellement, donner la force de faire plus de bonnes œuvres, c'est ce qu'on appelle l'istiqama, hein, et la force de résister au haram, c'est ce qu'on appelle également à l'istiqama, la fermeté dans l'éloignement du haram. Le verset qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un verset que tout le monde mémorise, que nous connaissons tous par cœur, et ça rejoint la deuxième partie du titre, le fait de méditer sur la grandeur d'Allah dans sa création. On peut appeler ça également Tawhidullahi fi rububiyya, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la création, le fait de reconnaître que tout est création d'Allah. Et cette conviction sur l'unicité d'Allah dans sa création doit augmenter notre iman billah. Si c'est Allah qui a tout créé, lui seul mérite d'être adorer, ça c'est la logique. C'est ce qu'on appelle Tawhidullah fil uluhiyya. Ça ce n'est qu'un découpage, une façon de comprendre les versets en rapport avec l'unicité d'Allah. Il y a plusieurs façons de faire des découpages, peu importe la façon. L'objectif c'est de comprendre que Ayatullah fil kaun, les signes d'Allah dans la création. Cela nécessite un cœur vivant. Ça ne nécessite pas des jumelles. Ça ne nécessite pas un drone ou un appareil qui nous permet de bien voir. Ça ne nécessite pas forcément un microscope. Il y a des scientifiques, il y a des personnes qui ont une grande intelligence dans le domaine des sciences et qui sont bien équipées. Ils ont les, comment on appelle ça, les trucs pour voir les astres et tout, hein, les télescopes. des trucs beaucoup plus forts que ça, qui permettent de contempler la voie lactée, ainsi de suite. Bref, ça c'est pour l'infiniment grand. Il n'y a pas d'infiniment grand, il y a Allah seulement qui est infini. Et ce qui est infiniment petit, avec les microscopes et ainsi de suite, capable de voir les atomes, les molécules, ainsi de suite, des personnes qui ont l'intelligence et qui ont le matériel et qui peuvent aller très loin et très près, qui peuvent voir ce qui est immense et qui peuvent voir ce qui est infiniment petit, qui peuvent te dire que dans une goutte de ton sang, il y a combien de globules rouges, combien de globules blancs, combien de fer, combien de calcium, de potassium, et ainsi de suite, qui est capable de te faire un discours sur une goutte de sang. Mais malgré ça, ma yahtadun, Allah musta'an. Malgré ça, ils ne trouvent pas la guidée. Ça veut dire que contempler la grandeur d'Allah dans sa création, la perfection d'Allah Azza wa Jal dans sa création, ne mène pas forcément vers le tawhid. Ça mène vers le tawhid, vers la conviction pour une catégorie de personnes. Les ulil albab, les gens dotés d'intelligence, les gens à qui Allah Azza wa Jal a donné l'intelligence. Alors, notre objectif à travers cette étude du verset « Nafi khalqis samawati wal ardi » On a oublié de dire le verset. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna fi khalqi samawati wal ardi. Après quoi encore? Wa ikhtilafi al-layli wan nahari. Il y a deux signes. Fi khalqi samawati wal ard. Et c'est déjà immense. La création des cieux et de la terre. Wa ikhtilafi al-layli wan nahari. Comment c'est traduit? L'alternance. Normalement, c'est le terme. Oui. Et dans l'alternance de la nuit et du jour, la ayatil li ulil albab, il y a certes des signes poilés doués d'intelligence. On a besoin de savoir quelles sont les qualités qu'on doit réunir pour faire partie des intelligents. Parce que ceux qui réunissent ces qualités, ils ont été décrits par Allah comme étant ulul albab. C'est pas le professeur d'université, c'est pas le professeur de thèse qui te dit que tu es intelligent. Il peut te dire que tu es intelligent. Une personne peut avoir énormément de diplômes et faire de grosses erreurs dans sa vie. Un homme peut être médecin, chirurgien et, mashallah, plein de diplômes, mais il rentre, lui, est fatigué, il donne une paire de claques à sa femme. Il lui donne divorce, il chasse son enfant, il dit, il maudit. Bref, il peut dire des paroles de jahil, lui ou non? Alors qu'il est extrêmement intelligent. C'est-à-dire que l'intelligence, ce n'est pas le coefficient intellectuel, ce n'est pas le niveau d'études uniquement. Certes, celui qui peut pousser au maximum, alhamdulillah, ça fait partie des ni'ma qu'Allah accorde à qui il veut. Mais l'intelligence que nous recherchons de Ulul Albab, qui a été attestée par Allah, qui est agréée par Allah, qui on pourrait dire authentifiée par Allah, que eux, ce sont les gens intelligents. Et nous voulons tous être ces gens intelligents et savoir quelles sont les qualités. Après, il y a la deuxième partie, et là, il y a le wasf. La description, Alladhina yadhkuruna Allah qiyam. Comme c'est souvent le cas dans le Coran, c'est l'usloub, on annonce une catégorie de personnes. Hudal lil muttaqin. Et là, ça donne l'envie, shawq, une guidée pour les pieux. On aimerait savoir qui sont les pieux. Après, il y a Alladhina yu'minuna bil ghaib, description des muttaqin. Là, pareil, ulul albab. Et puis, qui sont les ulul albab? Description de le verset suivant, Alladhina yadhkuruna Allah qiyam wa qu'udan. Ça, c'est la deuxième partie du verset. On démarre à la première partie, Nafi khalqis samawati wal ard. Encore une fois, c'est un verset que normalement tout le monde connaît par cœur ou on a l'habitude d'entendre. Avant de démarrer le tafsir, il y a un hadith qui stipule qu'Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ces versets, Nafi khalqis samawati wal ard, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de les lire à un moment précis. Qui peut me dire c'était à quel moment? Hein? Heureusement, le frère parle doucement. Quelqu'un d'autre? Basse. Ces versets, le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de les lire dans les premières raka'at, dans le début de tahajjud de qiyamul layl. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Enfin, après, le but n'est pas d'expliquer le qiyamul layl. Quand le prophète sallam faisait la prière de la nuit, il commençait par raka'atan khafifatan. Deux petites raka'at, des raka'at légères, pas longues. Et ensuite, quand il démarrait les lectures, il démarrait par Inna fi khalqis samawati wal ardi, le verset qui est de la sourate Ali Imran. Donc, c'est une sunna. Si Allah donne tawfiq de nous réveiller pour tahajjud, n'oublions pas, si on connaît ce passage, si on le mémorise, c'est une sunna de lire dans la prière de la nuit. Alors, Inna fi khalqis samawati wal ardi, de la création des cieux de la terre, min haythul hajmi, par rapport à la grandeur, la puissance, par rapport à tout ce que nous pouvons contempler dans les cieux, sur terre, ou fin nujumi, à travers les astres, ainsi de suite, ash-shams wal qamar, on peut pas tout citer, le soleil, la lune, ainsi de suite, ayatun min ayatillahi, tout ça, ce sont des signes d'Allah Azza wa Jal, wa kadhalika al-ashjar wal bihar wal anhar, ainsi que ce qui nous entoure du monde végétal, les arbres, les fleurs, les arbres fruitiers, les fleuves, on passe aux fleuves, aux ruisseaux, ainsi de suite, bref, tout ce qui nous entoure, normalement, fi kulli ma khalaqa Allahu fi as-samawati wal ard ayatun 'azima tadullu 'ala kamali wahdaniyatihi jalla 'azza wa jalla. Dans tout ce qui nous entoure, il y a des signes pour les doués d'intelligence, les doués d'intelligence, des signes qui le montrent, l'unicité d'Allah et sa puissance à travers sa création, la perfection de la création d'Allah Azza wa Jal. Mais cela n'est visible que pour ceux qui sont doués de ceux qui ont iman billah et qui ont le cœur rempli d'amour pour Allah Azza wa Jal. Et on expliquait aux élèves, subhanallah, en sirat ce samedi, dans quel cas on expliquait ça? Oui, on expliquait, oui, sur le fait que le prophète, le plus grand miracle du prophète alayhi salatu wa salam, c'est le Coran. Vous savez ça? Le plus grand miracle du prophète alayhi salatu wa salam, c'est le Coran. On avait essayé d'expliquer aux élèves cinq ou six points du caractère miraculeux du Coran. Le fait que c'est un style d'écriture unique, inimitable, et que personne ne pourra le falsifier jusqu'au Qiyama. Et parmi ces explications, il y a les versets miraculeux. Les versets qui annoncent les secrets de la création d'Allah, chose qu'un être humain normalement, n'a pas accès avec ses cinq sens. Et si on le sait, c'est uniquement parce que le Créateur nous l'a annoncé. Ou alors, viendra une époque où les gens le découvriront d'eux-mêmes. Mais combien de temps après? On avait expliqué aux élèves, donc, un signe d'Allah qui n'a jamais été, enfin, qui a été récemment compris par les scientifiques. L'existence de cette couche terrestre. Et, alhamdoulilah, on est parti sur Google, sur le fameux Mufti, on a tapé sept couches terrestres. Et là, il donne une étude scientifique qui relate que ce n'est qu'au XXe siècle qu'ils ont découvert qu'il y a deux couches terrestres. Et ensuite, il y a certains scientifiques qui ont émis l'hypothèse qu'il y en aurait sept. Certains étaient d'accord, d'autres n'étaient pas d'accord. Mais à la fin du XXe siècle, l'enseignement scientifique dans les universités occidentales aller dans ce sens qu'il y a sept couches terrestres, avec le nom des couches, ainsi de suite. Et que, expliquez aux élèves, quand on voit que les scientifiques ont pris tout ce temps pour découvrir l'existence de sept couches terrestres, et que de le Coran, Allah Azza wa Jalla nous parle des sept terres, ça c'est des ayat qui prouvent la véracité du Coran. Et d'autres encore, ce sont des signes qu'Allah a révélés. Prophète alayhi salatu wa salam, chose qu'un être humain, je répète, n'aurait pas pu découvrir par ses cinq sens. Et puis, ce qui était magnifique, c'est qu'il y avait, on est tombé sur un article écrit par un scientifique musulman qui a étudié l'atome. Il n'y a pas plus petite particule que l'atome. Il dit également que l'atome est composé, bon après c'est un peu technique, je n'ai pas tout compris, l'atome aussi est composé de sept éléments. Il dit que ça montre que autant dans les créations gigantesques que dans les créations microscopiques, Allah Azza wa Jal a une sunna, une façon de créer. Et celui qui arrive à méditer sur ce qui est énorme comme la terre et ce qui est infiniment petit comme l'atome, et il voit une similitude de la façon de qu'Allah les a créés et les a organisés, ça augmente la foi. Donc, l'objectif de cette première partie du verset, c'est de le faire prendre conscience que le mu'min qui a développé iman billah, il arrivera à un degré, à un stade où il voit le dunya et il voit la grandeur d'Allah. Alors que celui qui a un voile devant les yeux, même s'il a les biens de ce monde, les diplômes de ce monde, la reconnaissance des gens de ce monde et des notables, que je n'aime pas ce mot, de ce monde, mais s'il a un voile devant ses yeux, le voile du shirk, le voile du kufr, le voile du nifaq, le voile du fousouq, le voile soit de la mécréance ou ça peut être le voile des péchés qui empêche le croyant de comprendre de voir, de s'imprégner de cette beauté de la création d'Allah. Et celui qui n'a pas iman, quand il voit une montagne, il voit une montagne, basse. Quand il voit un coucher du soleil, il dit que c'est beau. Quand il voit la mer, il dit que c'est beau, basse. Mais le mu'min, il voit comment Allah Rabbul Izza a créé ça, subhanallah. Regardez une petite vidéo qui circulait sur WhatsApp. Il y a des choses bien et des choses moins bien. Il faut faire le tri. Quand on voit des choses bien, alhamdoulilah, c'est profitable. Montre un animal en Australie, dans le désert, en Australie. Il ressemble à un lézard, mais beaucoup plus gros. Il ressemble à plein d'animal préhistorique avec plein de piquants sur son dos. C'est un animal qui a besoin d'eau une seule fois par an. Et quand il trouve une petite source d'eau, même de l'eau qui est étendue sur le sol, il dit que c'est de l'eau que l'animal ne peut pas boire parce que ce n'est plus à l'état liquide. C'est de l'eau qu'il y a. C'est de l'humidité sur le sol. Il dit comment cet animal s'allonge et avec sa peau, sa carapace, ses pores s'ouvrent et absorbent ce liquide et du coup il change de physionomie. J'ai la vidéo, c'est Ajib. Et puis il y a un commentaire en arabe, les versets du Coran. Tout ça c'est Hada Khalqullah. Ça c'est la création d'Allah. Et si vos enfants regardent les documentaires sur le monde sous-marin, le monde animalier, bref, on voit que tout ça, le mu'min intelligent, il voit à travers tout cela là, grandeur d'Allah Azza wa Jal, alors que celui qui n'a pas la foi ou qui a un voile devant les yeux, il ne fait que qu'admirer ce qu'ils appellent dame nature. Wallahu musta'an, dame nature, et ses signes n'amènent pas vers ziyadatul iman, et ça c'est dommage. Alors que le mu'min doit avoir ziyadatul iman, augmentation de la foi, en contemplant la création d'Allah Azza wa Jal. Hada. Wartilaf il layli. Il y avait d'autres choses, mais après on va être beaucoup trop long. Et dans l'alternance de la nuit et du jour, demandez à un agriculteur. Je ne sais pas si parmi vous, certains, je ne sais pas si vous faites pousser des choses dans votre cour ou ailleurs, ou dans le pays. Dites-moi, si le soleil ne se couche pas deux jours, qu'est-ce qui se passe? Tous les pieds de banane, tous les manguiers, les pieds litchi, les cannes à sucre, qu'est-ce qui se passe? Ça brûle. Et s'il n'y a pas de soleil, quand je dis pas de soleil, c'est, je ne parle pas d'un temps couvert, hein. Il n'y a pas du tout, il n'y a pas de lumière, enfin, ce n'est pas de soleil, il n'y a pas de lumière sur ce dunya pendant deux jours. Qu'est-ce qui se passe?
Ça glace.
Et il n'y a plus de développement de vie. Et donc, ikhtilaf il y a rien versé, mais on ne veut pas être trop long. Le verset ne me revient pas. Le verset, قُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ. Après, il y en a le verset, قُلْ أَرَيْتُمْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدَ. Le sens du verset, si Allah faisait que la journée était continue. Et l'autre verset, si Allah faisait que la nuit était continue. Quel ilah, quel rabb, quel seigneur en dehors d'Allah ramènerait le soleil? Ou quel seigneur en dehors d'Allah ferait retirer le soleil pour qu'il y ait l'obscurité de la nuit? La ilaha illallah. Vous pouvez réunir les scientifiques, les gens les plus puissants de ce monde. Il n'y a pas une personne ou une puissance mondiale qui peut reculer ou avancer le lever du soleil. Et dans chaque minute de ce soleil, de sa présence, de son absence, il y a une hikmah uluhiya, il y a une sagesse d'Allah Azza wa Jal. Donc de l'alternance entre le soleil et la nuit. Et quand on voit des pays extrêmes comme l'Antarctique ou l'Arctique, le pôle Nord ou le pôle Sud, où il y a parfois des mois et des mois où il n'y a pas de soleil, où il n'y a pas de nuit, là-dedans aussi il y a un khair. Là-dedans aussi il y a un équilibre. Même si les scientifiques ne comprennent peut-être pas entièrement pourquoi une obscurité de 6 mois, sans le moindre doute, cela est important pour l'équilibre de ce dunya. Pour l'équilibre de ce dunya. Parce qu'il n'y a rien qui est fait au hasard dans la création, mais ça c'est pour le croyant intelligent. Et ce croyant intelligent, il n'est peut-être pas fort en science, il n'a peut-être pas autant de connaissances que les scientifiques, mais il sait que tout ce qu'il arrive à comprendre, il s'en remet à Allah. Il attribue hada, il attribue tout ça à Allah. Il dit ça c'est la création de mon Rabb. Même si je ne comprends pas tout, mais je sais que tout ça, ça prouve la puissance d'Allah Azza wa Jal. Et cela mène vers l'istiqama. Vous voyez le but du mu'allif, l'auteur, quand il cite les versets, et on n'en a cité qu'un seul, hein, le verset sur la création des cieux et de la terre, il dit l'objectif c'est contemple, vois la grandeur d'Allah, vois ta foi augmenter, et cela te mène vers l'istiqama. De quelle façon? Parce que ça développe iman billah. قُلْ أَمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِيمُ. Comment développer iman billah? En étudiant le Coran, c'est une piste. En essayant de connaître Allah, étudiant les noms, les sifats d'Allah, c'est une autre façon, c'est une autre piste. En observant la création d'Allah et en déduisant la puissance du Créateur, ça aussi, c'est une méthode. Et tout cela mène vers ziyadatul iman billah, vers le renforcement de iman billah de le cœur. Et quand iman billah, la foi en Allah s'installe dans le cœur, automatiquement il y aura la fermeté dans la foi, dans les bonnes actions et dans l'éloignement du haram. Et ça c'est logique. Quand dans ton cœur il y a Allah, tu aimes ton Seigneur et tu vis pour lui, est-ce que tu vas le désobéir? Est-ce que la première femme qui passe, qui te regarde, qui te fait un clin d'œil, tu vas tomber, tu vas chuter? Dis, je vis pas pour elle moi, je vis pour Allah. Je meurs, je retourne vers Allah. C'est pas pour quelques instants, pour un plaisir de ce dunya. Hakadha al-insan, hakadha al-mu'min. Le croyant dont le cœur est baigné de l'amour et la crainte d'Allah, il ne tombe pas comme les mouches. Il ne tombe pas avec n'importe quelle fitna. Il reste ferme. La fermeté, c'est la constance, c'est le istiqama. Après, il y a beaucoup de tafsir de Ikhtilaf, Layl wa Nahar, mais c'est beaucoup trop. Ce qu'on a cité, je pense que c'est accessible. Ça nous permet de bien comprendre l'alternance entre le jour et la nuit. Et enfin, donc, on conclut par ce qui nous intéresse. La ayatil liulil albab et alamat wadiha, des signes très clairs. Ala wahdaniyatillahi, sur l'unicité d'Allah. Wa kamal qudratihi, et sa force, sa puissance. Wa izzatihi. وَعِلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ, sur sa science, le potentiel, la force d'Allah, mais également sa clémence. Parce que nous voyons dans la création d'Allah, beaucoup de rahma, beaucoup de clémence également dans sa création. Alors, لِعُلِ الْأَلْبَابِ أي أصحاب الألباب أصحاب العقول, les gens qui sont dotés d'intelligence. Et le mu'allif demande لكن ما المراد بالعقل, هل المراد به الذكاء, ça veut dire quoi العقل, est-ce que العقل c'est الذكاء, الذكاء c'est l'intelligence que tu développes à travers tes études, à travers les acquis. Mais cette intelligence qui est citée de Ulul Albab, les gens comme doués d'intelligence, le terme du verset 190 de Sourate Al-Imran, dit que le mu'allif, le mufassir, explique que cela n'a rien à voir avec le coefficient intellectuel, avec le niveau d'études. فَالْعَقْلُ, cette intelligence, c'est ce qui t'amène vers Allah. C'est cette qualité de foi qui te permet d'analyser ce qui t'entoure et qui te permet de voir ta foi augmenter en contemplant la création d'Allah Azza wa Jal. Alors que, pardonnez-moi, ceux qui n'ont pas iman, même s'ils sont intelligents, laysu min al-uqala, ils font pas partie des gens intelligents. Inna sharra ad-dawab 'inda Allahi summul bukm alladhina la ya'qilun. Les personnes qui ne comprennent strictement rien, c'est parce qu'il y a le voile du kufr devant leurs yeux qu'Allah nous protège. Alors, quelles sont les qualités maintenant distinguent les doués d'intelligence? On a dit que ce n'est pas forcément les études, les diplômes. C'est présence de foi, présence de iman. Mais quelle qualité je dois développer pour arriver à ce niveau où je peux voir la grandeur d'Allah dans chaque manifestation de sa création? Vous voyez le tartib? Quelles sont les qualités que je dois réunir pour être parmi les ulul albab qui voient qu'à chaque fois qu'il va voir quelque chose de beau, il va se souvenir d'Allah? Alors c'est qui? C'est premièrement alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Et ensuite, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. On va dire que là on a deux qualités, le dhikrullah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, et qui arrive à une conclusion, Rabbana ma khalaqta hadha batila, et ensuite qui demande protection, qui font les louanges à Allah subhanak, et qui demande protection, faqina adhab an-nar. Ce sont eux les gens intelligents, ce sont les a'mal que nous devons développer pour faire partie des gens intelligents. On commence par alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda, qui debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah. Première qualité des gens intelligents, c'est le dhikrullah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné la yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. Fais en sorte que ta langue soit toujours trempée dans le dhikrullah. Autant que possible. Autant que possible. Quand on y pense. Soit c'est devenu une habitude, khair wa ni'ma, ça c'est une faveur de la part d'Allah et qu'Allah nous donne la constance. Si ce n'est pas le cas, si on ne fait pas le dhikrullah En tout instant, même inconsciemment, normalement, on doit faire le dhikrullah. Ça doit être comme un automatisme. Mais si ce n'est pas le cas, chaque fois qu'on se rend compte qu'on est en train de rien faire, on se dit qu'on ne peut pas laisser le vide s'installer. On ne peut pas laisser la langue ni la pensée s'évader et il faut revenir vers la pensée d'Allah. Et celui qui, à chaque fois qu'il pense, il fait le dhikrullah, on peut avoir espoir de faire partie un jour des « al-dhakirin Allah kathira » des gens qui pensent abondamment, qui pensent toujours à Allah. On a eu l'occasion de citer les hadiths, les vertus du dhikrullah, mais imaginez quelqu'un qui effectivement, toute la journée, et à n'importe quel moment, il pense à Allah Azza wa Jal. De sa bouche, c'est Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, Astaghfirullah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Il le fait à longueur de journée, autant que possible. Ça, c'est vraiment une personne qui a été choisie par Allah. Et nous devons demander à Allah cette qualité, parce que ça c'est tawfiq min Allah. C'est Allah qui choisit qui il veut. Et donc, cette personne qui pense régulièrement à Allah, il est sûr que son cœur va s'imprégner d'amour pour Allah. Et donc, on avait expliqué ça pour la concentration de la salat, celui qui veut le dhikrullah tout le temps, ben quand il est devant Allah, il trouve la dévotion directement, avec grande facilité. Alors que celui qui, toute la journée, il pense à mille et une choses du dunya, il pense jamais à son Seigneur, et tout d'un coup, il vient à la mosquée, il dit « Allahu Akbar », comment voulez-vous qu'il trouve une concentration optimale en une seconde? C'est pas possible. Un moteur qui est froid, on ne peut pas lui demander de démarrer et d'arriver à plein régime 180 km en deux secondes. À moins que tu aies une Ferrari, mais pas tout le monde a ce potentiel. C'est-à-dire que si tu es dans le dhikrullah, ben arriver dans la salah, subhanallah, c'est une connexion encore plus forte, encore plus rapide et directe avec Allah. Mais le cœur qui est éloigné d'Allah toute la journée, il a du mal à se connecter. Donc, ça c'est une des faïdas du dhikrullah. Deuxième faïda, c'est que ça te donne la possibilité de voir la grandeur d'Allah à travers la création. Donc, première qualité à développer, alladhina yadhkuruna Allah, pardon, qiyaman qu'udan wa ala junubihim. Sans rentrer dans les tafsirs, on voit que le dhikrullah ne nécessite pas un lieu, ni un état, pas de masjid forcément, et il n'y a pas besoin d'être en état de wudu, de tahara. Même une dame qui est en état d'impureté, elle peut faire le dhikrullah. On ne parle pas de la lecture du Coran, selon certains ulama, mais le dhikrullah mutlaqan, cela est accessible à tout le monde. Et même allongé, on peut faire le dhikrullah. Il n'y a pas à se dire que je suis allongé, je ne peux pas prononcer le nom d'Allah, ça manque de respect. Non, non, non. L'excès de respect, c'est l'exagération. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'allongeait, il mettait sa tête bénie sur les jambes d'une de ses épouses et il lisait le Coran. Cela est chose possible. Maintenant, ce n'est pas la position idéale, je veux dire. Ce n'est pas que demain, tout le monde va aller à Yassine. Là, là, wallah. De toute façon, là, on va créer des fitnas. Mais par muhabba, l'homme et la femme qui s'assoient à côté, qui lisent le Coran, ça, c'est une chose possible. Quelqu'un qui lit, hifran, bien sûr. D'accord? Qui lit par cœur. Ça, c'est possible. Ça peut nous faire comprendre que la pensée d'Allah, on peut le faire dans n'importe quelle situation. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Il y a une petite faïda qui nous intéresse. وَعْلَمْ أَنَّ الذِّكْرَ يَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ. Il y a deux façons de faire le dhikrullah. Il y a dhikrun tam, et le dhikr d'Allah le plus complet, c'est celui qui sollicite al-qalb wal-lisan. Le dhikr qui sollicite la langue, mais également le cœur. Après, il y a dhikrun naqis, وَهُوَ مَا كَانَ بِاللِّسَانِ مَعَ غَفْلَةِ الْقَلْبِ. L'autre niveau de dhikr, c'est celui qui se fait avec la langue, mais avec le cœur totalement absent. Malheureusement, la majorité d'entre nous, illa man rahimahullah, nos dhikrullah se limitent à la langue. Et en commenté, dit que malgré ça, Allah donne les récompenses. Pour le subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar qui a été dit, Allah accorde les récompenses. Mais cela n'apporte pas le ta'zimullah de le cœur, le hubbullah de le cœur, le khashatullah de le cœur, le thamara, les fruits du dhikrullah, on ne les retrouvera pas si on les fait uniquement avec la langue. Une personne qui prend son tasbih ou son sabbaha et qui lit mille fois, subhanallah, 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 maintenant il vérifie ses notifications, il regarde les gens, qui c'est qui rentre, qui c'est qui sort, comment il est habillé, combien de temps il fait, pourquoi il fait son salat rapidement, et ainsi de suite. Bref, il contemple le monde, en même temps il fait le dhikrullah. Chaque dhikr lui apporte quelque chose. Lui apporte hasanat, je veux dire. Hasanat, récompense. Mais son cœur ne s'imprègne pas de ce dhikr. Parce que هذا ذكر باللسان بس. On a besoin de ذكر باللسان وبالقلب. Comment associer le cœur? C'est la concentration maximum. La concentration sur le sens de Allahu Akbar. Et tu t'isoles, c'est comme si que le dunya se ferme autour de toi et tu es avec Allah. Et tu penses à sa grandeur. Et quand tu dis Alhamdulillah, tu penses à tout ce qu'Allah t'a donné comme bienfait et c'est Alhamdulillah qui sort de ton cœur. Et le Astaghfirullah, ça doit nous faire frissonner. En pensant à ses péchés et en reconnaissant qu'il y a Allah seul qui m'entend là. Quand je dis Astaghfirullah dans mon cœur, d'accord, silencieusement, personne ne m'entend. Le seul qui m'entend, c'est Allah. C'est le seul qui connaît également mes manquements, mes péchés, mes défauts. Et c'est le seul qui peut les pardonner. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Et comme nous demandons dans la salat, اللَّهُمَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Comment elle dit que dans ce doua, le croyant, tout d'abord il dit Allah, je me suis fait du mal, du tort à moi-même. Il reconnaît ses péchés et il dit que personne ne peut pardonner à part toi. Et ensuite demande فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكْ مِنْ عِنْدِكْ. Dis Allah, accorde-moi un pardon qui vient de toi. C'est pas un pardon que je mérite. C'est pas un pardon que tu as promis, donc donne-moi. Non, c'est un pardon de rahma. C'est pour ça que ça se termine فَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Deux noms d'Allah. Il y a différentes formules pour l'Allah mani dhalamtu nafsi, mais ça se conclut par les deux noms de Ghafour et Rahim. Ghafour, on a compris le sens, c'est Allah qui est pardonneur. Mais pourquoi Rahim? Pourquoi Clément? Parce que c'est par sa clémence qu'il nous pardonne. C'est parce qu'il a pitié de nous qu'il nous pardonne. C'est pas parce que nous avons mérité son pardon. C'est pas parce qu'on a un degré spirituel ou un degré d'action qui fait que Allah nous accorde automatiquement ce pardon. Non, c'est par pitié, par clémence, par compassion qu'Allah nous accorde son pardon. Donc, on remonte, on revient à ce qu'on disait. La présence du cœur, quand on dit Astaghfirullah, c'est de cette façon que les récompenses sont obtenues, mais également le cœur s'imprègne du sens de Stighfar et du Haya. Quand on dit Astaghfirullah avec la langue, mais en y pensant avec le cœur, on développe la pudeur et la honte de désobéir à Allah Azza wa Jal, qu'Allah nous accorde cette première qualité de dhikr, bil lisan ma'al qalb, avec présence de cœur. Et également, il y a la salat. Il y a la salat qui est faite avec le corps, le gestuel, sans cœur. Et puis, il y a la salat qui est faite avec le gestuel, mais avec présence de cœur. C'est la salat avec dévotion, avec concentration, avec humilité. C'est l'objectif que nous recherchons à travers notre salat. Et c'est cette salat-là qui sera vraiment productive. On va s'arrêter là aujourd'hui, inshallah. Première qualité, yadhkurun Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubim. Parce qu'après, les autres points nécessitent un peu de développement. Donc, on pourrait dire en conclusion, ulul albab, les gens intelligents, première qualité, faire beaucoup de dhikrullah. Et avec ça, tu vois la grandeur d'Allah à travers sa création. Et puis, on avance en conclusion des points qu'on n'a pas encore cités. Et avec ça, tu vas voir et ressentir la grandeur d'Allah dans chaque élément de sa création. Ça t'amènera vers Rabbana ma khalaqta hadha batila, la reconnaissance de la vérité et la réflexion sur l'au-delà. On verra le verset qui découle de ce groupe de vers de ayat qui nous mène vers la réflexion de l'au-delà et la réaction faqina adhab an-nar. Comment tu démarres par la contemplation de la création d'Allah et tu finis par demander protection contre le feu, c'est-à-dire que la contemplation augmente ta foi. Ça te permet de réaliser la grandeur d'Allah. L'amour d'Allah pénètre ton cœur. Ça te permet de réaliser que tu appartiens à Allah et que tu retournes vers lui. Et ce retour vers lui, il faut qu'on le réussisse. Donc on demande protection contre le feu de l'enfer. Vous voyez le circuit? Observe. Méditation sur la création d'Allah. Augmentation de foi jusqu'à arriver à cette étape. Qu'Allah Rabbul Izzan donne la clairvoyance. La possibilité de comprendre. Le verset est très long. Les tafsirs sont longs. On essaie d'être le plus concis possible. Faire en sorte de ne pas être trop technique dans les explications, mais qu'Allah nous donne la compréhension du verset et nous donne cette qualité au matawfiq illa billah, qu'à chaque instant nous pensons à faire le dhikrullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Zakumullah.